Merci pour votre invitation. Comme ça ?
Oui, c'est bon.
Ça va ? Donc voilà. Prise dans sa généralité, la notion de structure semble un peu abstraite. Du point de vue de la psychanalyse, elle pourrait même paraître déclassée. Depuis que la théorie lacanienne en a minoré l'usage au profit des mathèmes et des nœuds, sans doute ceux-ci font-ils néanmoins structure à leur manière, bien qu'autrement, en décalage en tout cas, par rapport aux travaux de Saussure et de Lévi-Strauss. Quoi qu'il en soit, le titre « Structure et négativité » dans la clinique psychanalytique, donc « Structure et négativité » est à entendre comme une condensation, l'ellipse d'un jeu de concepts que je vais m'efforcer de mobiliser. Nous sommes de fait dans un multistructuralisme. La théorie de la médiation va réduire à sa manière la polysémie du terme de structure en le réservant aux performances de l'homme considérées dans les quatre registres d'aptitude qu'elle pense devoir identifier, à savoir le signe, l'outil, la personne, la norme. En appui sur un modèle fort, la tentation est grande de se confiner dans un isolat conceptuel en se contentant de jouer sa partie dans son coin, de manière communautariste, comme si d'autres jeux, structuralistes ou non d'ailleurs, n'existaient pas. Je tâcherai de ne pas y succomber, sans tomber non plus dans cette paresse intellectuelle qu'est l'éclectisme. Je dirais donc qu'une question, d'où qu'elle vienne, commence par se saisir d'un objet initial qui se transformera chemin faisant et qui la transformera. Je partirai en ce qui me concerne de la clinique psychanalytique. C'est avec elle que se mobilisera quelque chose de structural. J'ai choisi plus précisément de raisonner sur le cas de la névrose obsessionnelle qui permettra une confrontation de modèles. Voilà une entité clinique qui, à l'instar de beaucoup d'autres, s'est dissoute dans les récentes versions du DSM et dispersée en une série de traits comportementaux. Rien d'étonnant, puisque l'épistémologie de cette Bible psychiatrique repose sur la description de traits cliniques manifestes regroupés par corrélation statistique. Les éventuels mécanismes psychiques sous-jacents sont méthodologiquement neutralisés, dans l'espoir, bien ancré même s'il est pudiquement dénié, derrière un athéorisme de façade, l'espoir donc de pouvoir raccorder directement des comportements à des déterminismes biologiques. La seule structure qui vaille dans cette affaire est un système de classification inspiré de l'analyse factorielle. Le démantèlement des ensembles cliniques intuitivement repérés par la psychiatrie classique est dès lors inévitable, avec en ligne de mire inavouée des malades quantifiés par excès ou défaut, qui de dopamine, qui de sérotonine, etc. Bref, des malades de la biochimie du soma. La manifestation comportementale passe alors d'un lieu d'observation initiale à un lieu de vérification d'effets thérapeutiques escomptés, présomptivement pharmaceutiques et par défaut psychologiques selon des méthodes comportementalistes. La question est de savoir si, entre ces deux bouts de la chaîne, existe ou non une organisation sui generis inaperçue. L'hypothèse de l'inconscient, dont il n'est pas interdit de discuter la dénomination, qui reflète un débat d'époque et les circonstances de sa découverte, donc cette hypothèse de l'inconscient, se déploie dans cet entre-deux que Freud a tenté de théoriser métapsychologiquement. Pas de psychanalyse sans métapsychologie. lieu de concept, qui ne désigne pas des observables immédiats, mais plutôt des constructs, que le langage de la théorie de la médiation appellerait une instance, dans la mesure où il ne s'agit pas seulement de l'abstraction dont est capable le chercheur, mais de l'abstraction supposée inhérente à l'objet lui-même, on parle de formalisme incorporé, qui interagit avec celle du chercheur. Cette interaction est particulièrement sensible en psychanalyse quand surgit le phénomène du transfert, alors même que les paramètres du dialogue ont été simplifiés au maximum dans le but de favoriser une pure expressivité. Aussi, Lacan a-t-il pu dire que, je le cite, c'est dans une interview à Gilles Lapouge, dans le Figaro en 66. Donc Lacan disait « Freud a moins découvert l'inconscient, dont l'existence était soupçonnée depuis longtemps, qu'il ne l'a établi en son lieu et qu'il n'a élaboré une méthode de déchiffrement. Il fallait, poursuit Lacan, le coup de force de Freud pour comprendre que l'inconscient est structuré et que cette structure impose une méthode de lecture. On sait que la conception de la structure évoluera au fil de la doctrine lacanienne dans le sens d'une mathématisation. À l'époque de la citation, qui correspond à la publication des écrits, Lacan définit la structure encore sous l'influence du structuralisme saussurien. Je le cite, « La structure n'a pas la même signification pour chacun. Ainsi, pour moi, dit Lacan, le mot structure désigne exactement l'incidence du langage comme tel dans ce champ phénoménal qui peut être groupé sous la rubrique de ce qui est analysable au sens psychanalytique. Au sens psychanalytique. Autrement dit, la problématique saussurienne est déplacée. C'est bien de linguisterie, comme il dira, qu'il s'agit, et non de linguistique. Ce déplacement rejoint, je crois, la notion gagne-panienne de discours, c'est-à-dire la prise du langage dans l'éthique. Bon, poussé par l'éthique, revenons à la névrose obsessionnelle. Il s'agit d'une innovation nosologique freudienne. Sous le terme de zwangsneurose, Freud entend décrire et expliquer une certaine configuration clinique qui constitue à ses yeux un ensemble articulé et non pas une simple conjonction de symptômes. C'est donc qu'il perçoit dans cette entité une structure qu'il baptise par un de ses traits majeurs, à savoir la sensation de contrainte qui s'empare de quelqu'un, se sentant forcé intérieurement, il n'y a là aucune xénopathie psychotique, donc qui se sent forcé intérieurement à penser, agir, entreprendre quoi que ce soit, tout en subissant au même instant la poussée d'un contre-vouloir. Nous nous trouvons devant une pathologie de la liberté. Je l'avais clairement indiqué dans un travail déjà ancien que j'avais intitulé « Garantir la liberté, une torture pour l'obsessionnel ». Mais je vais prendre les choses avec un peu de recul, cherchant à répondre conjointement à l'histoire de la découverte freudienne et à l'exigence épistémologique croissante qui, de Lacan à Gagnepas, en passant par Zondi et Scott, le père de Jean-Claude, oblige à la revisiter. Ce lignage est un fil rouge. En dépit de différences notables et peut-être insurmontables, un style de pensée y insiste, suffisamment commun. Tous ont le sens de la structure, de la négativité et de la dialectique. Ils participent donc d'un même esprit, bien qu'ils ne s'emboîteront jamais comme des poupées gigognes. J'avoue d'ailleurs éclairer ma clinique selon les cas, tantôt par l'un, tantôt par l'autre, sachant qu'il n'y a pas de point de vue de Sirius, et en cherchant à contourner le raccourci de l'un par le détour de l'autre. Que dit donc Freud en avançant cette innovation nosographique de sphinx-neurose, qu'il considère, selon ses propres termes, comme, je cite Freud là, l'objet le plus fécond et le plus intéressant de la recherche analytique. L'originalité de son approche n'est pas dans le vocabulaire. La psychiatrie française parlait déjà d'obsession et Freud avalise le terme, bien que le terme d'obsession ne corresponde pas exactement à celui de zwang, que on traduit mieux par contrainte. Donc l'originalité de Freud tient dans le démarquage d'avec une conception déficitaire de la névrose, qui était celle par exemple de Björk ou de Janet, au profit d'une approche franchement structurale, susceptible de rendre compte de manière articulée d'une diversité de symptômes. En outre, et comme en guise de confirmation, Freud trouve une forte analogie entre cette névrose et des phénomènes culturels, tels que les pratiques religieuses, comme si la névrose obsessionnelle était la signature clinique du ritualisme religieux et, plus largement, de toute cérémonialité. Le génie de Freud est celui d'un théoricien, doublé d'un clinicien d'une finesse d'observation remarquable. La richesse de ces descriptions s'appuie évidemment sur des hypothèses théoriques qui permettent de les structurer, mais sont aussi inévitablement des corsets. L'empiriste l'emportant en lui sur l'homme de système, il demeure cependant possible de découvrir dans les explications qu'il donne des trésors cachés susceptibles de nouveaux déchiffrages. Pour le tenter, faisons un pas métapsychologique. Je dirais que les humains ont affaire avec l'angoisse et la jouissance comme affects extrêmes, dans l'empan desquels cherche à se réguler le principe vital de plaisir-déplaisir, relayé et soutenu dans sa tâche par diverses instances collectives. Or, la clinique montre que l'irruption de la jouissance sexuelle agit toujours de manière peu ou prou traumatique, ce qui explique qu'on retrouve dans tout effroi une coloration sexuelle, et que l'angoisse de castration soit une métonymie de l'angoisse de mort. Les névroses dites de transfert s'en défendent, au premier rang desquelles on trouve l'hystérie et l'obsession. Freud les contraste de plusieurs traits. La première, l'hystérie, subissant la jouissance sur un mode trop passif, en aurait été submergée dans un premier temps. La seconde, l'obsession, participant activement à l'expérience, l'aurait d'avance incarcérée dans des fantasmes de maîtrise. D'où la pente de l'hystérique à la conversion somatique pour juguler l'envahissement disruptif, et du névrosé obsessionnel à la mentalisation ruminante pour protester de son innocence. On peut voir dans cette passivité et cette activité l'intuition d'une bifacialité au sens où en parlera la théorie de la médiation, reconnaissable à cet effort pénible contrastant avec une jouissance erratique. Mais non contente de répartir les deux névroses sur les deux faces de la norme, que sont l'acculturation du prix, ce qu'il faut payer, et du bien. La théorie médiationniste, donc non contente de répartir sur les deux faces du plan de la norme, les axialise, cette opposition entre obsession et hystérie de conversion. Elle lit donc le tourment obsessionnel comme un trouble taxinomique et la compacification du corps dans la conversion hystérique comme un trouble génératif. Cette distribution dégage du même coup, et là on voit une vertu heuristique du modèle, cette distribution dégage du même coup un espace où caser leurs complémentaires, à savoir la phobie, qui est un trouble étymologique comme l'obsession, mais sur l'axe génératif, et ce que j'appellerais l'hystérie fabulante, qui est un trouble crématologique, donc du bien, sur l'axe taxinomique. Si bien que nous avons obsession-phobie, affabulation hystérique, hystérie de conversion. Ça, c'est une des vertus heuristiques du modèle. À la différence de l'hystérique, dont l'échec se répercute dans le registre de la honte, autrement dit, dont le titre à jouir est toujours plus ou moins usurpé, la culpabilité envahit le sphinx neurotique. Même si elle est loin d'être toujours manifeste, cette culpabilité, le plus souvent elle est blottie dans la scrupulosité, voire dans l'obséquiosité. Freud la rattache sans hésiter à des expériences sexuelles infantiles vécues comme fautives. L'assurance dont cette thèse fait preuve continue de choquer, parce qu'on oublie ce qu'il faut comprendre par sexualité freudienne, et plus particulièrement par sexualité infantile. La sexualité freudienne déborde largement la génitalité et vise la recherche éperdue de jouissance par toutes les modalités pulsionnelles qu'offre le développement du sujet. Il convient donc, et la théorie de la médiation y invite, de distinguer le fonctionnement de la pulsionnalité, y compris humanisée, d'une part, et d'autre part, l'éclosion somatique des zones pulsionnelles avec leur genèse propre. L'enfant étant une dimension permanente de la personne adulte, comme Freud l'avait déjà noté, il vaudrait mieux parler des stases de la libido que de ses stades. Gagne-Pain approfondira l'idée en faisant de l'enfant le préalable dialectique et jamais liquidé de la personne. Et surtout en dissociant radicalement la forme axiologique de la pulsion de son contenu somatique. En tant qu'elle émane d'un corps, la pulsion est prise au jeu de l'offre et de la demande. Elle ne cesse de s'inscrire au champ de l'autre, comme dit Lacan. Et c'est par là qu'elle entre dans l'histoire. Qu'on songe, par exemple, au câblage d'un Schreber avec son parler de nerfs, à l'obturation forcenée des oreilles d'un Wolfson, ou même au scénario imposé du pervers. Ce n'est pas le fonctionnement plus ou moins inhibé ou débridé de la pulsion qui se trouve là en cause, mais sa localisation, son inhérence subjective, son être même. Il s'agit au sens ontologique de la question du corps propre. Il est donc éclairant de faire la différence entre la pulsion dans sa fonctionnalité, très bien repérée par Freud pour les névroses, et la pulsion prise dans la dialectique de l'échange et du don, sur laquelle Lacan, parce qu'il était très attentif aux psychoses et aux perversions, a su jeter une lumière vive. Et que peut-on donner et échanger d'autre, en définitive, que son corps ? Mangez et buvez, ceci est mon corps. C'est la personne pulsionnelle qui se déboîte dans les psychoses et les perversions, tandis que c'est la pulsionnalité de la personne qui disjoncte dans les névroses et les psychopathies. Considérons maintenant cette pulsionnalité en tant que telle. selon l'anthropologie clinique médiationniste. On posera donc qu'un principe de plaisir tout naturel nous pousse, comme tout animal, vers l'obtention d'un bien qui suppose nécessairement d'y mettre un certain prix. Ce mouvement est celui même de la pulsion, cela qui nous meut, tri-pré-gong. La pulsion est déjà, on peut le dire, une intentionnalité. Les impressions affectives émiettées, qui sont à considérer comme l'équivalent des stimulations sensorielles à organiser gnosiquement, donc ces impressions affectives se regroupent et s'orientent en pulsions, fuyant la douleur au profit d'une satisfaction, Befriedigung, qui ne peut être que tempérée, sous peine de s'inverser en souffrance. Le plaisir s'obtient donc à l'intérieur de certaines limites, celles qu'outrepasse par contre le toxicomane, par exemple. Autant dire qu'à ce plaisir, il manque toujours quelque chose, et c'est en réalité le manque de ce manque qui étreint le toxicomane. Ce manque, ou son défaut, ne prennent toute leur ampleur que si les prix et les biens, humainement subvertis, n'ont plus de commune mesure avec le seul bien-être. Nulle mesure a priori n'en est donnée, mais une aptitude plus ou moins opérationnelle en chacun d'en décider éthiquement, même indépendamment de toute prise de conscience, à la hauteur de ses exigences et de ses aspirations, qui ne sont d'ailleurs nullement immuables, mais toujours amendables, en principe, et dont la licéité morale est indépendante de la loi au sens du code. Ceci peut d'ailleurs conduire à des paradoxes difficiles à soutenir, comme par exemple dans les quatre fascinations devant un pouvoir fou, prêté à un grand autre, pervers ou psychotique, ou l'allégeance à une idéologie cruelle rend insensible à toute considération humaniste. Ce n'est pas un défaut comme tel de la sensibilité morale, mais c'est pris dans la folie. Quoi qu'il en soit, la pulsion se redessine éthiquement, ce qui suppose un décrochage, une négativité par rapport au désir immédiat. Ce n'est pas ça, ce prix-là, ce bien-là. Et une repositivation transfigurée qui n'est autre que le processus même de la sublimation. Le mouvement pulsionnel traverse donc un passage à vide, une Versagung, qui n'est pas néant, mais structure. Car le refoulement en soi non pathologique mais nécessaire, n'oppose pas un nom informe à la pulsion, mais un nom informant. Il la vide de son contenu naturel pour qu'elle devienne pulsion autrement. Il la vide non en la jetant par-dessus bord, mais en l'analysant, c'est-à-dire en lui imposant le principe d'une échelle qualitative et d'une mesure quantitative. Souffrir, comment et combien ? Jouir, comment et combien ? Et ceci dans la réciprocité par laquelle une peine ne se justifie que d'un bénéfice et une joie de s'être méritée. Or, ce qui ne devrait être que forme informante, réinvestie dans un désir du même coup transformé, devient, hélas, le piège qui referme ses mâchoires sur le névrosé. Il est pris au piège de l'hyperbole du refoulement. La structure axiologique, chez lui, hyperfonctionne et freine, voire empêche, la négation de négation qu'est l'Aufhebung, par laquelle le coût et la perte, implicitement calculés, devrait se surmonter dans une praxis humainement désirante parce que normée. C'est-à-dire que le plaisir décidé et satisfait ne l'est toujours que relativement, en lisière d'une jouissance à jamais mythique ou tout au plus mystique, Et c'est ce qui insupporte le névrosé, que ça soit limité. Il faut bien comprendre le fonctionnement dialectique du désir humain. Il n'est pas éthique du seul fait de son recul devant la pulsion. Ce n'est là que la moitié du chemin. À y planter sa tente, le névrosé ne rencontre qu'une bizarre transfiguration. Le masque obscène et sadique d'un surmoi, dont s'affuble une exigence éthique bloquée et portée à l'hyperbole, celle de la peine, dans le cas de la névrose obsessionnelle. Or, la dialectique du désir ne peut s'accomplir que si l'instance éthique se désabsolutise pour s'ouvrir à la praxis concrète. Il n'y a donc ni désir en soi, ni éthique transcendantale, ni bien sûr morale naturelle, mais un jeu dialectique qui est transfiguration pulsionnelle. Il n'est certes pas facile de cerner le lieu du trouble qui affecte la névrose, car sa manifestation, comme tout tableau clinique, résulte d'un jeu complexe de dérivation et de compensation. Le mérite du modèle médiationniste, par sa volonté proprement analytique de déconstruction, est de dénuder le point crucial de la névrose. Dans le cas qui nous occupe, il s'agit de partir de la culpabilité, comme si le névrosé obsessionnel était incapable de se pardonner d'avoir mal agi. Mais, à y regarder de plus près, sa supposée mauvaise action procède de l'insuffisance de toute action. Pour le névrosé, il est intolérable que l'option ne soit jamais adéquatement accomplie et que le procès reste en permanence ouvert. Du coup, jamais l'obsessionnel n'engage son gage et ne se dégage d'une obligation interne qui, de se réitérer de manière incessante, tend à se répéter à l'identique et fait se lever le spectre d'une faute absolue. L'obsessionnel perd la relativité de la faute, en quoi il se rapproche du mélancolique, la prise en masse narcissique en moins. Ce qui effondre le mélancolique, c'est justement la prise en masse narcissique. C'est une culpabilité prise dans le narcissisme. Donc l'obsessionnel, pourrait dire, ressemble à ce locuteur qui, envahi par la polysémie, serait incapable de synonymie. La seule issue pour l'obsédé, c'est une analogie avec ce qui se passe en glossologie, hein. Donc la seule issue pour l'obsédé est le passage en force d'un thème qui envahit tout l'espace psychique sur le mode « il faut, il ne faut pas ». D'où le sentiment de contrainte. Pas plus que d'une décompensation psychotique, il s'agit chez lui d'une confusion des garants par défaillance du principe différentiel, ce qui donnerait une figure psychopathique d'agitation stérile ou en fait n'importe quoi. Le névrose obsessionnel, ce n'est pas ça. Il s'agit d'une impuissance à résorber la polythymie, comme dit Yanpa, la polythymie des garants. Donc c'est analogue, si vous voulez, à la polysémie des phonèmes, par exemple. Donc, impuissance à résorber la polythymie des garants, qu'il ne cesse de revisiter jusqu'à l'inhibition, avec le cortège d'ambivalence et de doute qui l'accompagne. Bien évidemment, il y a toujours un réinvestissement pragmatique, il faut bien vivre. Mais ce réinvestissement pragmatique, dans le cas de l'obsessionnel, est bancal. Et il se manifestera sous des formes très insolites, souvent brutales, impulsives, bref, dans des passages à l'acte qui viennent ponctuer des scénarios, comme ceux de Lomora, par exemple, qui, pour se soustraire à la double injonction de rembourser, ne pas rembourser, le montant de ses lorgnons, il avait perdu ses lorgnons dans des manœuvres militaires, puis il avait commandé des nouvelles lunettes à son opticien. Mais bon, entre-temps, l'obsession avait fait son jeu, si je peux dire. Hein. Donc, bon, voilà, est-ce qu'il fallait payer, pas payer, quoi. Bon. Alors, pour échapper à ça, ben, il imagine un scénario fou, quoi, dingue, où il va convoquer tout le monde pour faire transiter la somme d'argent. Afin de rembourser sans rembourser, ne pas rembourser tout en remboursant, enfin, un truc absolument affolant. Bon. Je pourrais multiplier les exemples qui tous montrent un affolement du garant, qui est à son comble quand la différence vient à pivoter simplement sur l'axe de la négation, faisant de n'importe quel A un non-A. Je pense à un analysant de culture juive qui me faisait part de sa crainte, lorsqu'il écrit, de voir s'imprimer au verso de la feuille, indépendamment de sa volonté, bien entendu, l'exact contre-message. Ce fantasme est évidemment facilité par l'orientation de l'écriture en hébreu, comme si elle pouvait revenir au dos de la feuille en boustrophédon, comme une contre-culture, si vous Alors, j'ai relevé avec intérêt que cette duplicité du signifiant, je prends le terme de signifiant là au sens lacanien, donc un peu laxiste si je peux dire, par rapport à la rigueur que souhaite lui attribuer la théorie de la médiation, donc je relève avec intérêt que cette duplicité du signifiant, ah non, ah, rembourser, pas rembourser, etc., a retenu l'attention d'un psychanalyste chevronné qui, toutefois, ignore la théorie de la médiation ou ne la connaît que par ouï dire. Il s'agit de Charles Millemont. Dans son séminaire récemment réédité, et qu'il a consacré donc à la névrose obsessionnelle, je me réfère en particulier à la leçon du 15 décembre 88. Cette duplicité du signifiant, évidemment, il en rend compte à sa façon. Ça ne colle pas sur plusieurs points avec ce que je viens de suggérer à partir de la théorie de la médiation, puisqu'il en fait une lecture lacanienne. Mais l'anthropologie clinique inspirée des travaux de Gagne-Pain peut recueillir ce que dit Millemont et peut-être mieux l'expliquer, à condition de décondenser certaines formules de Millemont, notamment celles qui se contentent de poser le signifiant dans le registre symbolique, l'effet de sens dans l'imaginaire et le signifié dans le réel. Le Gegensinn, le contresens, qu'on trouverait non seulement dans les mots primitifs, Freud avait étudié ça sur les travaux de Karl Abel. Donc, le contresens qu'on trouverait non seulement dans les mots primitifs, mais encore dans les contre-ordres de l'obsession, tu rembourses, tu rembourses pas, est supposé pour Millemont faire retour du réel, c'est-à-dire du lieu de l'inconscient, qui est aussi le lieu de l'autre, dans le vocabulaire de Lacan, et c'est supposé donc faire retour de ce lieu-là et venir briser le miroir du sens. Mais sens et contresens, qui pour l'obsessionnel surgissent de la même matrice antonymique, constituent, dit Millemont, en réalité un faux couple qui se fait passer pour légitime. C'est parce que l'inconscient, qui en est pourtant l'effet, ne connaît pas la castration et, partant, ne connaît pas la négation. C'est pour cela que les antonymes y fleurissent, dit Millemont, comme dans le rêve, qui, on pourrait dire, est sur l'inconscient comme en prise directe. Si nous acceptons d'identifier inconscient et implicite, la théorie de la médiation parle plus volontiers d'implicite, aussi bien grammatical que éthique d'ailleurs. La citation que je vais vous lire de Mellman prend immédiatement pour nous un relief saisissant. Voici la citation. S'il est vrai que l'inconscient ignore ce qu'il en est de la castration, il peut paraître beaucoup moins surprenant que les signifiants qui fonctionnent dans l'inconscient, ou les sens, les pensées qui se formulent en son sein, puissent donner à entendre de façon quasiment automatique leur antonyme, leur sens opposé, sans qu'aucunement se présente dans l'inconscient la nécessité de faire un choix, d'avoir à opter. C'est un peu comme si, dans l'inconscient, je cite toujours Mellman, le signifiant fonctionnait de telle sorte qu'il ne manquait jamais, si je puis dire, de faire entendre ce que j'appelais tout à l'heure, poursuit Mellman, cette sorte de double face originelle à laquelle nous répugnons dans notre vie consciente, puisque celle-ci implique la castration, et en quelque sorte nous oblige à un choix, à opérer sans cesse cette division. Fin de citation. Bon, voilà un texte, me semble-t-il, que ne répudiera aucun médiationniste et qui permet en effet d'un peu mieux comprendre comment l'homme aura cru, par exemple, pouvoir s'en tirer de son ambivalence en condensant dans une formule rituelle de sa propre création, hein, Glégis Amen. Il condensait là-dedans le nom de sa bien-aimée, Gisela, la terminaison « Amen » qui termine les prières, et aussi une allusion au sperme, « Sémen ». Voilà comment sentir l'obsessionnel avec les contradictions dans le filet desquelles il est pris. Il y a une création de sens insolite, mais qui garde la trace de l'ambivalence insurmontée. Alors Mellman, je reviens à Mellman, parce que je joue là sur deux claviers, hein, médiation, Lacan, pour le moment. J'emmènerai le pédalier tout à l'heure avec Sandy.
Tu as 5 minutes. René.
5 minutes
bah oui, à peu près. Là, je te raconte 10.
Bon, bah alors il faut que j'aille beaucoup plus vite parce que je... Je suis à la moitié de mon propos. Mais je sauterai Zondi. Bon, voilà, d'accord. Tant pis. Bon. Alors, je vais résumer. Bon, voilà. Mellman nous dit, bon, les linguistes, ça ne peut pas beaucoup nous aider pour penser cette ambivalence. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a une symbolisation ratée. Voilà. Il y a une tentative de symbolisation, mais qui échoue. Et il remarque que ces ambivalences surviennent toujours dans un contexte de connotation dégradante, salissante. Et dans un contexte institutionnel aussi, qui a une forte valeur symbolique, dans des cérémonies de naissance, de mariage, d'enterrement, par exemple. Et de ça, la linguistique ne peut pas tenir compte. Bon. Mais si on veut reformuler les choses dans un langage médiationniste, on pourrait remarquer que si le glossologue n'a peut-être rien à dire sur cette ambivalence, un sociolinguiste aurait peut-être son mot à dire, un axiolinguiste aurait peut-être son mot à dire. Car les circonstances dans lesquelles se produit cette ambivalence touchent affectivement le sujet.
Là, tu m'as déstabilisé. Excuse-moi.
Parce que tu m'obliges à ramasser les choses d'une manière que je n'avais pas prévue. Et je voudrais quand même dire l'essentiel. Bon, écoutez, je vais sauter certaines choses.
Continue, continue. Tu t'es sans avancer, c'est dommage.
Oui, non, je vais quand même essayer de résumer un petit peu. Bon, dans la perspective de Melman, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on peut faire la lecture lacanienne que propose Melman? Bon, pour Melman, la coupure qui est opérée par l'émergence du signifiant, c'est-à-dire par le refoulement originaire, abandonne l'objet au réel. Mais dans la névrose obsessionnelle, toujours telle que cherche à l'expliquer Melman, quelque chose de cet objet resterait accroché au basque du signifiant, quelque chose de littéral, pourrait-on dire, qui opacifie le signifiant, qui le tire du côté du signe, au risque de tuer le symbolique. À entendre ici comme l'espace de jeu où se déploie non seulement le langage, mais le contrat social. Donc le décollement des antonymes serait empêché par l'insuffisant détachement de l'objet, celui-ci tirant le signifiant du côté de la chose, c'est-à-dire le littéralisant. Ça, c'est strictement lacanien, ça. Mais on peut le redire dans un vocabulaire qui serait celui de la médiation, de l'anthropologie clinique. Il y a bien un englouement de la parole, donc du signifiant. Mais dans la perspective de la théorie de la médiation, c'est parce que le refoulement ne parvient pas à se défouler, si je peux dire, suffisamment. Il ne parvient pas à se surmonter. Autrement dit, on a un blocage de la dialectique. Ce blocage, il ne faut pas le confondre avec une clôture. En tant que système, la structure, elle est fermée. Sinon, ce n'est pas une structure. Mais paradoxalement, cette fermeture ouvre des potentialités infinies qui n'aspirent qu'à se déterminer. C'est ça le mouvement dialectique qui est sans cesse reconduit. Le blocage sur la structure laisse l'action dans l'indétermination la plus complète, que j'ai appelée la polytimie. Et je voulais faire encore une référence à Van der Mersch, qui est aussi un lacanien. Je vais abréger. La difficulté, si vous voulez, pour, dans la perspective de la théorie de la médiation, de l'anthropologie, la difficulté pour le névrosé, et ici en l'occurrence le névrosé obsessionnel, c'est de ne pas pouvoir surmonter cette sorte de polyvalence ouverte justement par le formalisme structural. C'est-à-dire que la pulsion trouve une ouverture formelle qu'elle ne parvient pas à réduire en la réinvestissant d'une manière pragmatique dans l'action, dans la décision, dans l'action décidée. Et c'est ça qui fait la détresse de l'obsessionnel. C'est qu'il est en permanence confronté à un choix insoluble parce que c'est comme si vous voulez, les possibilités du choix rebourgeonnaient d'une manière incessante. Voilà. Alors, on dira en vocabulaire lacanien que l'objet colle au signifiant, il n'est pas vraiment abandonné. Hein? Le refoulement n'est pas étanche, si on peut dire, suffisamment. Mais on peut en faire une lecture médiationniste, que je trouve peut-être plus féconde, parce qu'elle manie un langage théorique plus univoque, hein? Plus précis. Bon, Je voulais dire un mot de Zondi, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Pourquoi est-ce que je voulais en parler? Parce que il y a eu un dialogue très soutenu. Je pense que c'est le plus soutenu. Mis à part la rencontre de Gagne-Pas et de Saboureau, évidemment, qui est une connivence, une collaboration extrêmement étroite. Mais en dehors de cette collaboration étroite avec Saboureau, qui est un neurologue, il y a eu un dialogue très soutenu entre Jacques Scott et Jean Gagne-Pas, avec une tentative de rapprocher leur modèle, le modèle zondien qui inspirait Scott, qu'il a beaucoup revisité, beaucoup enrichi, et qui est un modèle structural et dialectique. Mais je ne vais pas pouvoir le montrer, ta faute. Bon. Vous me croirez sur parole, ou vous me poserez des questions. Mais c'est un modèle structural et dialectique. C'est ce qui fait qu'ils ont pu se rencontrer et se parler. Parce que le modèle de la théorie de la médiation est également un modèle structural et dialectique. Donc ils étaient faits, en quelque sorte, pour s'entendre. Et néanmoins, il subsiste des malentendus. Bon, alors... Voilà, je vais conclure en essayant de justifier pourquoi à la fois Scott et Gagne-Pas se sont rencontrés et puis qu'ils n'ont pas pu vraiment tout à fait se comprendre. Il y a incontestablement un air de famille et un style de pensée qui leur a permis de se parler. Mais il y a quelque chose qui reste irréductible. Alors, quoi ? Pour Scott, la notion de pulsion et ses destins est centrale. C'est elle qui gouverne le champ de la psychopathologie psychiatrique, à l'exclusion donc de la neuropathologie. Son inspiration à Scott fut non seulement freudienne, mais aussi phénoménologique, notamment à travers Binswanger. Sa démarche met l'accent sur la vitalité de la vie psychique et son caractère dynamique, surmontant la fausse dichotomie du normal et du pathologique. Gagne-Pas, quant à lui, trimballe, si j'ose dire, une autre histoire. C'est la neurologie et sa rencontre avec Saboureau qui lui a fourni le réel de la clinique nécessaire à faire résistance à l'imagination théorique, parce qu'il faut toujours une résistance. Mais il héritait, Gagne-Pas, du même coup, d'une tradition française plus neurologique que psychiatrique, qui, de Ribot à Janet en passant par Charcot, n'a jamais cessé d'accentuer une conception déficitaire de la pathologie mentale. Donc il y a là deux abords différents, voire divergents, de la structure. Alors pour conclure, je dirais, en trois points, c'est rapide, je suis convaincu de la vertu heuristique que peut avoir le transfert analogique, qui est au cœur, je dirais, de la façon de penser dans la théorie de la médiation. Mais on a surtout exploité ce transfert analogique par rapport à l'instance structurale. On gagnerait à le faire aussi du point de vue du réinvestissement performantiel. Donc, par exemple, dans le cas qui nous occupe, en développant ce que j'appellerais une sémantique du comportement. Ainsi, les mécanismes de défense relevés par Freud à propos de la névrose obsessionnelle, l'isolation, l'annulation rétroactive, bon, on peut les considérer comme des effets d'hypermoralité, semblables par analogie, bien que non identiques évidemment, semblable à des effets de sens rhétoriques. C'est-à-dire que l'isolation serait une tentative radicale de s'appuyer sur une faculté de découpage segmental afin de trancher au couteau, dans quoi ? Dans le brouillard, des infinies nuances motivationnelles. L'annulation rétroactive serait le vœu de reprendre un agir défiguré qui n'aurait été qu'une caricature de décision. de remobiliser en quelque sorte la mécanique décisionnelle, si je peux dire. C'est une question de coupe prédicative, de coupe comportementale, prédicative comportementale. Donc la finesse de la rhétorique médiationniste pourrait nous guider bien plus loin que ce que j'esquisse là. Et si la linguistique structurale n'est plus aujourd'hui pour les sciences humaines le poisson pilote qu'elle a été, je n'exclus pas, et même je souhaite, que la glossologie, avec toute sa finesse d'analyse, puisse prendre le relais. Deuxième point de conclusion. Une fois qu'on a déglobalisé, c'est-à-dire analysé, il faut cliniquement penser les interférences, car c'est performantiellement que se font les convergences. Ainsi, par exemple, la panne du névrosé ne peut qu'exacerber la sanction de l'autre, le petit autre et le grand autre. Lacan, par exemple, dans sa conférence sur le mythe individuel du névrosé, a très bien montré la propension du névrosé à spéculariser le rapport à l'autre, en faisant de lui un rival imaginaire. Mais la figure du grand autre n'entre pas dans cette capsule spéculaire, et n'en ressort que plus terrible. Le dérèglement du désir entraîne alors une double manifestation de l'altérité, si je peux dire, une rivalité imaginaire, et puis une sorte de sanction symbolique, la statue du commandeur qui se dresse devant le névrosé. Un dernier mot. Qu'en est-il du phallus ? Voilà un signifiant que très pudiquement, trop pudiquement, la théorie de la médiation passe sous silence, mais qui a une fonction importante en psychanalyse. Bon, il est le symbole de la jouissance qui ne s'obtient qu'au prix de la castration. Mais cette castration, c'est un concept surdéterminé. À la fois, elle fonde, par l'échange exogamique, le lien social, mais par la frustration, elle régule la pulsion. Alors, les modélisations de Lacan, que ce soit celle du graphe ou de la topologie, ne s'embarrassent pas de cette distinction. Elles s'appuient, les modélisations de Lacan, sur l'acte clinique du transfert. Donc, elles s'installent d'emblée sur la ligne d'interférence des plans. Mais celle-ci n'est rien d'autre, en définitive, que la recombinaison spontanée, fût-elle perturbée, que la pathologie tend à dissocier. Donc, une fois encore, on vérifie le fameux mot de Eschyle que Scott aimait citer, « patei matos », c'est par la souffrance que nous apprenons. Et Freud ne disait peut-être pas autre chose en convoquant les deux pulsions mythiques, « Eros et Thanatos », « Eros » avec sa vertu de rassemblement symbolique, c'est ce que veut dire symbolique, justement, et Thanatos, sa puissance de dissociation diabolique. Voilà. Je vous remercie de votre patience.